Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Et avec Roland Courbis et avec Willy Sagnol et Lionel Charbonnier, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit. L'after ne s'arrête pas pendant cette période. Nous allons en Angleterre dans un instant. Je vous rappelle que à 23h20, appelez-nous 32-16, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio pour nous dire qui est pour vous le meilleur joueur de Ligue 1 de la décennie 2010, donc jusqu'en 2019. On vous donnera les vainqueurs des trophées UNFP et on parlera des gardiens. Évidemment, n'oublions pas, Lionel, les gardiens. Mais d'abord l'Angleterre. Julien Laurence est avec nous. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Juju.
Alors, où en sommes-nous en Angleterre? Alors, info du jour, reprise du championnat le 8 juin, a priori, je dis bien a priori.
Alors, c'est un des scénarios effectivement avancés par la Première Ligue, par la Fédération Anglaise, par le ministère des Sports. Ça a été relayé ce matin par le Times. Mais si tu veux, chaque semaine, on a un scénario le lundi, un scénario le mercredi, un autre le vendredi sur ce qui est possible. Le gros problème pour l'instant, si tu compares avec l'Allemagne, et je sais que Polo vient d'intervenir dans l'émission, c'est le problème des tests. En Angleterre, il y a très peu de tests possible ou en tout cas disponible, ce qui serait un problème donc pour tester les joueurs avant les matchs, après les matchs et régulièrement et avant chaque match quasiment, et les gens qui pourraient entrer dans les stades pour les matchs à huis clos, parce que le problème c'est qu'on donnerait la priorité aux joueurs de foot plutôt que à des gens qui sont des key workers, comme on dit ici en Angleterre, donc qui ont les emplois essentiels et des choses comme ça. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas plus de tests disponibles pour que les joueurs puissent avoir leur test sans que tu en enlèves à d'autres personnes qui en auraient plus besoin, ça restera un problème. Et les Anglais donc ont encore un petit peu de mal à mettre exactement une structure en place pour savoir quand ils reprendraient. Mais c'est vrai que le 8 juin, ça paraît être une date possible. En tout cas, ça finirait environ vers le 27 juillet et la saison suivante recommencerait donc à la fin août, un petit peu comme pour le championnat de France.
Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire que là, ils ont pas encore atteint le pic en Grande-Bretagne au niveau du corona. Et ils sont en retard par rapport à nous. Et la date de reprise serait pratiquement la même que nous.
Ouais, c'est ça effectivement. Alors au niveau du pic, on n'est pas encore. C'est pas très très clair finalement le message du gouvernement. Tu sais, Boris Johnson, le Premier ministre, ouais, a été hospitalisé en réanimation aussi. Donc ça a été un petit peu compliqué, je pense, au niveau de la direction que le gouvernement et que le pays a voulu prendre à un moment. C'est pas très clair non plus au niveau des différents messages qu'ils envoient. La police ce soir, par exemple, a dit nous, on sait plus trop quoi faire. On sait pas si on doit verbaliser tout le monde. On sait pas si on doit aller sur les plages ou dans les parcs où il y en a qui font encore des barbecues. On sait pas trop quoi faire, donc c'est pas très très clair. Et effectivement, t'as raison sur le fond. On est derrière vous, donc on ne devrait pas pouvoir avoir notre confinement relaxé un petit peu en même temps que vous, c'est-à-dire vers le 11 mai. Ça devrait pas être possible chez nous, même s'ils commencent à en parler. On pourrait pas reprendre à la même date que vous non plus. Mais par exemple, Arsenal vient d'annoncer aujourd'hui que eux allaient reprendre l'entraînement par petits groupes, comme ça se fait en Allemagne en Bundesliga, à partir de la semaine prochaine. Ce qui, par exemple, serait inenvisageable en France. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à suivre parfois ce qui se passe ici en Angleterre à ce niveau-là. Mais ils ont l'air un petit peu plus optimistes quand même que ce qu'on peut voir en France, bizarrement. Okay.
Alors, je rappelle également qu'ils envisagent de mettre des gens dans le stade, des spectateurs, 400 personnes dans le stade, obligatoirement testés négatifs au coronavirus. Je rappelle également, c'est important qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer, 92 rencontres à disputer de ce championnat qui a été suspendu le 13 mars dernier, que Liverpool a 25 points d'avance, coach. T'en parlais hier, justement.
Non, je dis 400. J'ai toujours la crainte des fumigènes. Après, si.
Oh,
si
ça fait longtemps qu'il n'y a plus de fumigènes en Angleterre.
Ouais, mais après, ça devient huis clos.
Chelsea a communiqué également aujourd'hui, a publié même un communiqué, Julien, pour dire que le club ne baissera pas pour le moment les salaires de ses joueurs. Voilà.
Effectivement. Alors, c'est dans le sens plutôt. Hein. C'est les joueurs qui n'ont pas accepté
la position du club. D'accord. Voilà.
C'est-à-dire que ça fait maintenant plusieurs semaines que César Azpilicueta, qui est le capitaine, négocie avec la direction du club pour justement trouver un accord pour que ce soit un déferlement, comme on l'a vu beaucoup en Angleterre. Aston Villa aujourd'hui a été le dernier club à dire que les joueurs n'allaient pas être payés pour les deux mois qui arrivaient, ou en tout cas allaient être payés un petit peu moins, mais c'était pas une baisse de salaire net, c'est-à-dire que l'argent après leur serait repayé, si tu veux, plus tard dans la saison ou la saison prochaine ou quoi que ce soit. Alors qu'Arsenal, eux, par exemple, ce qu'ils ont annoncé cette semaine, c'est que c'est une baisse de salaire net et que les joueurs, hormis une qualification pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, c'est cet argent-là, ils l'ont fait économiser au club. C'est pour Chelsea, ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Les joueurs, à la place, vont continuer à faire des donations à des associations caritatives.
Qui décide à Chelsea aujourd'hui?
Donc Azpilicueta, qui était le joueur.
Non, au niveau des dirigeants.
C'est Marina.
Kranovskaya, ouais.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Toujours elle.
Kranovskaya, donc. Toujours elle, bien sûr. Elle s'occupe de tout. Roman Abramovich a pris un petit peu de recul parce que il n'est plus autorisé à venir en Angleterre parce qu'il a plus de visa anglais, visa britannique. Donc il peut plus venir en Angleterre. Donc effectivement, c'est elle qui, même quand il pouvait venir, c'est elle qui s'occupait de tout le club. Mais après, on peut toujours en débattre. Est-ce qu'un joueur doit à son club de faire un geste pareil, oui ou non? Mesut Özil, par exemple, a choisi de pas le faire pour Arsenal. Les autres ont choisi de le faire. Clairement, à Chelsea, il y avait des joueurs qui devaient être contre, puisqu'ils ont pas, ils ont finalement pas trouvé d'accord. Dans d'autres clubs, ils ont accepté. Voilà, c'est un débat qui est très intéressant, fascinant et qui est très disparate aussi.
Il était pas assez bien payé, Özil.
T'as raison.
J'ai lu le chiffre, j'ai pris peur.
17.
Mais lui, il te dit qu'il donne 2 millions d'euros par an à des associations caritatives, pardon, en Angleterre, en Allemagne, en Turquie, dans le village où ses parents sont originaires.
Tu vois, Julien, ça c'est un débat. C'est un débat qu'on a eu, je crois d'ailleurs, la semaine dernière, il me semble, dans l'after, où on parlait de ça. On disait que. Enfin, on était plutôt d'accord de dire que les joueurs ne veuillent pas baisser leur salaire. Moi, j'y voyais pas de problématique parce que les joueurs, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, en Espagne, ce sont des gens qui sont très impliqués sociétalement et qui donnent déjà beaucoup d'argent et qu'on n'est pas toujours en train de leur demander. Donc, c'est pas, moi, je ne trouve pas ça choquant qu'ils ne veuillent pas baisser leur salaire. Voilà.
Voilà. Hein? Coach?
Ah ben non, mais je suis d'accord. Mais bon, attends, on peut quand même faire un petit commentaire.
Oui, bien sûr. Moi, je pense, pas la même position que toi, Willy, là-dessus. Je pense que les très gros salaires, effectivement, pour sauvegarder leur univers économique, peuvent faire un effort également, parce qu'il en va également de la pérennité de leur système. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Si tu maintiens tes salaires alors que ton club ne rentre plus d'argent, que ce soit en ticketing, en billetterie ou en droit télé, peut-être que. Alors que souvent, au sein de ces clubs, des salariés font des efforts ou sont au chômage partiel. Peut-être qu'un exemple peut être donné par les très gros salaires. Tu vois, Willy, c'est un débat qu'on a déjà eu.
Tu sais, ouais.
Au moins pour penser à l'avenir de leur secteur d'activité, à savoir le football professionnel.
Tu penses sincèrement que Chelsea, s'ils sont obligés de payer leurs joueurs pendant deux mois sans rentrer d'argent, ça va les mettre dans une situation.
Non, mais il n'y a pas que Chelsea, mais il y a d'autres clubs, tu vois, notamment en France.
Non, mais Chelsea, par exemple, comme les derniers résultats financiers. C'est très compliqué. Arsenal, c'est pareil. Arsenal, l'année dernière, ils annoncent 30 millions d'euros 35 millions d'euros de pertes. Donc, à un moment, si t'as un club qui perd déjà 35 millions d'euros en temps normal, et que là, tu traverses une période où il n'y a aucune rentrée d'argent, même si en Angleterre, il faut le rappeler quand même pour les auditeurs, les droits télé ont été payés, eux. Le problème pourrait intervenir dans le sens où si les matchs ne sont pas tous joués ou la saison est arrêtée maintenant, c'est possible que Sky et BT Sport, à un moment, et même les télés étrangères qui retransmettent la Première Ligue, disent à la Première Ligue, ben, nous, on vous a payé en avance. Les 92 matchs, là, ils n'ont pas été payés. On veut que vous nous remboursiez une partie de notre argent. Et là, ce serait très compliqué. Mais contrairement à la France, en Première Ligue, les clubs ont été payés et les droits télé ont été payés.
Et puis on n'oublie pas que les montants quand même des droits télé en Angleterre, il faut le dire, sont astronomiques.
Ouais, ils ont un peu baissé quand même, mais ils sont encore énormes, évidemment.
Allez, quelques broutilles.
Mais quand même, il y a une tendance. C'est une tendance qui se dessine. Julien, on a fait le mercato avec Simonet, le mercato en Angleterre également. Il y a un gros dossier, un sujet actuellement et qui nous concerne, nous en France, et le PSG particulièrement, c'est l'avenir de Thomas Meunier. José Mourinho a déclaré sa flamme.
Oui, effectivement, une belle déclaration d'amour de la part de José Mourinho à Thomas Meunier, comme d'ailleurs c'était écrit ce matin dans l'équipe et comme ça a été confirmé aujourd'hui aussi en Angleterre. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas au club, en tout cas à Tottenham, n'est pas follement amoureux de Thomas Meunier non plus, parce que Thomas Meunier il a 28 ans et que dans un effectif qui est déjà assez âgé, si tu regardes la majeure partie de cet effectif là, c'est vrai que la position du club et la politique du club à Tottenham, ce serait plutôt de recruter des joueurs plus jeunes, comme on l'a vu avec Bergwijn qui est arrivé au mois de janvier qui a 23 ans. C'est plutôt ça l'idée pour Daniel Levy, le président du club. Alors que Mourinho, lui, aimerait beaucoup recruter Meunier. Il cherche un arrière-droit, effectivement. Et, et lui, ça lui plairait bien.
Il n'y a pas de transfert, il y a uniquement les salaires.
Oui, c'est, y a même pas si l'offre qu'il a du Borussia Dortmund, mais il a une jolie offre, une très belle offre même du Borussia Dortmund, Thomas Meunier. Et donc, il faudrait forcément s'aligner de la part de Tottenham. Et pour cela, convaincre donc Daniel Levy de mettre sur la table une belle offre. Après, moi, je pense que Meunier réussirait très bien en Angleterre. Je pense que c'est un joueur qui aimerait sûrement jouer en Angleterre aussi, vu que ça réussit très bien aussi aux Belges. Voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, de ce qu'on m'a dit aujourd'hui, lui n'a quasiment plus d'espoir de recevoir un appel de Leonardo et une offre du PSG.
Vous en pensez quoi, monsieur Woody?
Je sais pas si vous pensez qu'on peut refaire encore une concurrence Aurier-Meunier, comme ça a été au PSG
pendant
un moment. Enfin, moi, je pense
que Mourinho.
C'est très compliqué. Si Meunier vient, sincèrement, je vois pas Aurier rester. Après, sur sa capacité à s'adapter au championnat anglais. Meunier, c'est un joueur. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi ce joueur parce que je le trouve intéressant. C'est un joueur un peu atypique dans sa personnalité, dans sa façon d'être. Mais en Angleterre, on le sait, c'est beaucoup sur un jeu de transition. Donc, les latéraux, ils doivent faire sans arrêt des allers-retours. Et moi, je suis désolé, mais Meunier au PSG, ça fait un moment qu'il n'est plus en capacité athlétique de le faire. Il fait des montées, mais il fait moins des retours.
C'est-à-dire, on est bien d'accord. Quand il est arrivé, moi, je le trouvais très intéressant, mais je l'ai jamais vu progresser. C'est même le contraire sur ces derniers temps. Je le trouvais vraiment moyen.
Et voilà pour.
Oui. Moi, je pense que.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Moi, je pense qu'il est capable, Willy. S'il y a un championnat dans lequel il est capable de s'intégrer, je pense que c'est l'Angleterre. Hein. Plus que l'Italie, vois, plus que
athlétiquement.
Alors après, je suis d'accord avec toi. Il fait pas le retour avec le PSG.
Moi, je trouve qu'il a pas la caisse.
Est-ce qu'il a vraiment l'envie? Est-ce que il est pas déjà parti dans sa tête et tout ça? Je pense aussi que la caisse il l'a. Il a peut-être plus le mental pour le PSG. Il s'est peut-être passé trop de choses et peut-être que c'est le moment pour lui de changer d'air. Mais je le verrais bien s'intégrer en Angleterre.
Voilà pour Thomas Meunier. Coach, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, je garderai l'image de sa déclaration, que t'étais pas au courant qu'il avait un carton jaune. Ça, c'est sûr que je garderai plutôt ça comme souvenir que
de le. Et tu penses qu'il a manqué
un gros match, tu vois? Je m'en rappelle même pas ces derniers temps.
Tu penses qu'il a menti?
Ah non, mais il est doublement con. C'est-à-dire que déjà, il oublie, si on le croit, hein, je dis bien si on le croit, on va le croire. Il oublie qu'il a un carton et il le dit.
on peut quand même dire honnête, ce garçon, de manière générale.
Le mec, il est honnête, il te dit, je suis con.
Non, c'est vrai, non. Peut-être que c'est aussi le travail d'un club, les gars.
On va pas lui dire, tiens, belge.
Je sais pas.
Nous, Roland, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui tenait et qui disait, fais pas le con aujourd'hui, ou tu vois, on nous le disait avant le match. Mais c'est vrai qu'on se. Moi, ça m'est arrivé de pas me souvenir si je prenais un carton ou quoi. Alors, la veille, si c'était le samedi d'avant, ouais. Mais des fois, tu sais, avec le nombre de matchs.
Je savais pas que vous étiez autant limité, excuse-moi de te taquiner.
Non, mais Lionel,
professionnel de haut niveau, que tu prends un carton jaune en Champions League, tu oublies que tu as un carton jaune.
Non, mais d'accord, mais si c'était un championnat.
Je suis vraiment surpris.
Si c'était un championnat qui ne se rappelait plus qu'il avait pris les trois cartons en 10 matchs, à la rigueur, en pensant que ça fait 10 ou ça fait 11 matchs, ça pourrait passer. Mais en Champions League, tu ne joues pas 25 matchs de Champions League par an. Donc tu peux quand même bien te rappeler si tu as déjà pris un carton.
Ouais, ouais. Après,
faudrait être de mauvaise langue de penser qu'il a signé à Dortmund.
C'est aussi un devoir.
Il faudrait être de mauvaise langue.
Donc attends, tu veux dire quoi, coach?
Non, je veux dire que je veux pas être mauvaise langue des bruits qu'il y a qu'il aurait signé déjà à Dortmund.
À l'époque, avant le 8e, après le 8e de finale aller.
Surtout pas, ça
tu veux dire qu'il aurait.
Ça serait pas
ses pensées. Il n'y a pas le sort de pas jouer contre Dortmund au match retour parce qu'il pensait s'engager à Dortmund, c'est ça que tu veux dire, ouais. plus ou moins.
Bah, écoute,
oui, bon, là, on est dans une époque,
ouais. Et j'ai la chance et la malchance en même temps d'avoir beaucoup d'années d'observation, et excuse-moi, qu'il n'y a plus rien, pratiquement plus rien qui m'étonne.
Bon, voilà.
Donc voilà, donc c'est tout. Maintenant, vous me dites qu'il va signer à Tottenham. Ok.
On dit pas ça, on dit que Mourinho le veut absolument.
Oui, d'accord, mais peut-être qu'il a déjà signé. On verra.
Chelsea, Julien, aime beaucoup Pierre-Emerick Aubameyang.
Effectivement, c'est un joueur qu'ils suivent parce que là encore, c'est une situation assez intéressante pour des clubs comme Chelsea. Aubameyang, il lui reste plus qu'un an de contrat. Pour l'instant, il n'y a aucune discussion avec Arsenal sur une possible prolongation. Il a 30 ans, il coûte déjà très cher au club d'Arsenal puisqu'il touche environ 220 000 euros par semaine. Donc c'est vrai que tu peux te poser la question déjà d'un point de vue d'Arsenal. Est-ce que s'il ne signe pas un nouveau contrat, tu le gardes encore un an mais il partira gratuitement, ou tu veux le vendre maintenant? Et dans ce cas-là, c'est pas à plus de 30, 35 millions d'euros peut-être, et donc dans ce cas-là, ça fait un très joli coup pour un club qui cherche un attaquant. Et Chelsea, bien sûr, cherche un attaquant. On le savait déjà au mois de janvier, où ils avaient essayé de recruter un autre numéro 9, Dries Mertens étant le dernier nom sur leur liste. Malheureusement, ça s'était pas fait. Ils avaient gardé Olivier Giroud avec Tammy Abraham et Batshuayi. Ils veulent de nouveau chercher un numéro 9 cet été, ou en tout cas quand le marché s'ouvrira. Et donc c'est vrai qu'Aubameyang, ça pourrait dans ce sens-là. Avec lui, t'es sûr d'un buteur qui va te marquer entre 15 et 20 buts de championnat dans la saison. C'est un joueur qui peut jouer aussi côté gauche, voire côté droit. C'est assez fiable. Il connaît bien le championnat. Donc pourquoi pas? Ça a beaucoup de sens de la part de Chelsea de s'intéresser à lui.
Julien, si jamais Chelsea s'intéresse à lui, ça veut dire que bah il y aurait au moins Batshuayi qui partirait, non?
Voilà, c'est
parce
ça.
Parce que Giroud, on a vu qu'ils avaient levé son option.
C'est ça.
Mais ça ne veut pas dire pour qu'il le vendre.
Voilà, c'est peut-être pour le vendre, mais pas pour pas le laisser partir gratuitement, pour le vendre, ouais. avec une petite indemnité.
Oui, il a 34 ans, ils espèrent quoi?
Oui, bah bon, il avait parti pour 4 millions.
Voilà, même pas.
Ah non, c'était 4 millions pour l'Inter en janvier. Ça s'était pas fait à 5 millions d'euros, donc peut-être qu'ils veulent, je sais pas, peut-être que tu prends 3 millions, c'est ça de prix déjà, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre personnellement. J'en ai pas encore parlé avec Olivier, mais voilà, c'était ça. Mais après, regarde, pour l'instant sur leur liste, ils ont Dembélé de Lyon. C'est quelqu'un qu'ils aiment énormément, ça fait longtemps qu'ils le regardent, ils vont souvent le voir jouer en live, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune qu'Aubameyang, mais qui sera beaucoup plus cher en termes d'indemnité de transfert, peut-être moins cher, sûrement moins cher en salaire, mais voilà, à toi de voir après entre les deux. Et puis un joueur comme Timo Werner, moi je pense que Timo Werner, il a quasiment acté un départ vers Liverpool plutôt que même que le Bayern ou que n'importe quel autre club. Donc ce sera très difficile pour Chelsea, je pense, d'aller chercher un Timo Werner. Donc après, peut-être qu'Aubameyang, effectivement, peut être la bonne pioche.
Et Dembélé, pourquoi maintenant? Pourquoi quand il était au Celtic, ils ne sont pas manifestés avant? Ils étaient frileux sur ses capacités de franchir l'Écosse, de faire le pas entre l'Écosse et, et l'Angleterre.
Et c'est très étrange. Et je peux te citer beaucoup d'autres noms, comme Virgil van Dijk, par exemple, qui était là exactement la même chose, qui brillait avec le Celtic et qu'aucun des grands clubs, à qui pourtant il a été proposé à l'époque, n'avait voulu le prendre. Il est parti à Southampton. Ils l'ont laissé s'aguerrir à Southampton, faire ses preuves en première ligue à Southampton. Et puis,
pourtant, ils en ont eu.
Après, pour 80 millions d'euros.
Corse et compagnie, c'était des bonnes choses.
C'était il y a longtemps, mon Lio, ça. Je pense que c'était à une époque où le championnat écossais était bien meilleur qu'il l'est aujourd'hui.
Ah, ok. Je regarde plus trop le.
Non, mais tu vois, non, aujourd'hui. C'est vrai que. Tu vois, voilà. Je pense que c'est simplement ça. Et de voir ensuite les performances qu'il a eues à Lyon ont été plus de nature à convaincre les Anglais, parce que Manchester United est aussi, je pense, à l'affût, en tout cas regarde ce qui se passe du côté de Dembélé, plus que s'il avait fait encore deux autres saisons au Celtic.
Bon, tant mieux pour Lyon.
Oui parce que on est dans des hauteurs de 80 millions d'euros, je pense, Julien.
Voire entre 60 et 80, je pense.
Ouais, c'est ça. Et quant à Aubameyang, pour Chelsea, ce serait combien?
Bah, il y a eu un an de contrat à 30 ans, je pense que ça peut se négocier à 30, 35, quoi.
Ouais, 30, 35.
Vraiment, ce serait. Arsenal, voilà, aurait fait une bonne affaire s'ils arrivaient à récupérer autant pour un joueur qui, encore une fois, sera libre de signer gratuitement n'importe où au mois de janvier prochain.
Merci, Julien.
Merci, monsieur. Salut, bonne fin d'émission.
Salut, excellente soirée à toi. Nous, on reste ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, avec Coach Courbis, Willy Sagnol et Lionel Charbonnier. Dans un instant, appelez-nous au 32-16. Donnez-nous votre meilleur joueur de Ligue 1, décennie 2010, hein, donc de 2010 à 2019, bien sûr. Appelez-nous au 32-16, le hashtag RMC Live et l'application Direct Studio. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Jamain.
Avec Coach Courbis, avec Willy Sagnol et avec Lionel Charbonnier, bien sûr, à 23h45, nous évoquerons le cas des joueurs les plus sous-cotés du football. Willy, Lionel et Coach ont déjà au moins un nom en tête. Appelez-nous au 32-16, bien sûr, le hashtag RMC, l'application Direct Studio, et également pour ce débat qu'on va avoir ensemble désormais. S'il y a un débat, je ne sais pas encore, je ne connais pas la réponse de nos consultants. Qui est selon vous le meilleur joueur de la décennie 2010 en Ligue 1? Donc je rappelle qu'une décennie commence 2010 et s'arrête en 2019. 2020, c'est la décennie suivante. Alors pour info, messieurs, pour info, les vainqueurs des trophées UNFP de la décennie 2010 sont Lisandro Lopez en 2010, 22 buts. 2011-2012, Eden Hazard avec Lille. 2013-2014, Zlatan Ibrahimovic. 2015, Alexandre Lacazette. 2016, encore Ibra. 2017, Cavani, 43 buts. 2018, Neymar. 2019, Mbappé. Commençons avec
et
Lionel.
Et même remarque qu'hier, hein, donc toujours pas de défenseur.
Toujours pas de défenseur, il y a encore moins, t'as raison. Que des, d'ailleurs, que des attaquants.
Il y a ouais. que des Brel. Depuis 10 ans, on a que des Brel en défense en France.
Et hein. Non, mais quand même, t'as vu.
On a que des Brel. Marquinhos, c'est une Brel.
Mais t'as raison.
On a que des Brel, hein.
Mais ouais.
Mais est-ce qu'il faudrait pas finalement, les gars, jouer un mini débat, lancer, puisque personne veut rien entendre sur les excellents défenseurs qu'on a en Ligue 1, eh bien une autre catégorie, les meilleurs joueurs défensifs. Je sais
oui,
pas.
Oui, mais tu as l'exemple, je reviens chaque fois, donc je vais finir par être fatigant. Le Ballon d'Or déjà, il donne le mauvais exemple. Donc c'est sûr que n'importe quel trophée.
C'est pas, je le suis après, mais bon. Tu, effectivement.
Ben ouais, mais n'importe quel trophée. Si tu ne fais pas un trophée, je dirais pas allez trois trophées attaquant, milieu, défenseur. Je dirais simplement offensif et défensif. Au moins ça. Et les gardiens, on les met évidemment à part. Mais le Ballon d'Or, eux, ils sont tellement intelligents, ils ont même mis le gardien. Mais il y a eu Yachine quand même une fois. En 100 ans.
Il y a eu Yachine et puis en défenseur il y a eu Cannavaro et Mathias Zammer. Voilà.
Ah oui.
Merci.
Magnifique.
Beckenbauer, bien sûr, et également.
France aussi, hein.
Ce qu'il fallait faire, ouais, France Beckenbauer.
Ouais, bon, c'était un numéro 10 reconverti.
Non, mais c'est intéressant, parce que je sais pas ce qu'en pensent dans les vestiaires, Willy, Lionel et coach, de ces trophées-là, notamment quand on est défenseur. Est-ce qu'on se fait une raison? Est-ce qu'on se dit, bon, non, c'est pour vous, les gars, devant, amusez-vous.
Tu sais
voilà,
que tu l'auras pas, fout, et basta.
T'es fataliste.
On sait que tu l'auras pas, sauf miracle, mais justement, tu es pas content qu'il n'y ait pas deux trophées. Bah un offensif, un défensif.
C'est emmerdant. On en a parlé la semaine dernière, Roland. Mais c'est vrai que c'est chiant. C'est encore les stats, et c'est ceux qui te font gagner les matchs. Mais gagner les matchs, c'est pas seulement marquer des buts. C'est pas seulement. Il y a pas que ça.
Mais il faut faire.
C'est aussi ne pas en prendre.
Les gars, c'est que du business, c'est tout. Et c'est et pour faire du business, et tu mets en avant ceux que les enfants. Les idoles des gamins. Les
bah
gamins
ouais, tu vends plus de numéro 9, de maillot numéro 9 que de maillot numéro 6.
Oui. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est foot, mais il y a aucun, je pense pas qu'il y ait des défenseurs qui aujourd'hui se disent, oh là 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 là, c'est, je suis défenseur, j'aurais pas le Ballon d'Or. Non, parce que mais le Ballon d'Or, tu sais que c'est réservé de toute façon.
Non, mais
tu sais que c'est réservé à une
équipe. Il pourrait se dire, Willy, s'il y avait deux Ballons d'Or, un offensif et un défensif, je pourrais peut-être l'avoir. Il pourrait se dire ça.
Oui, peut-être.
Ouais, mais après, on dirait, alors, et Toni Kroos, il est milieu offensif ou milieu défensif? Les milieux, il faudrait faire défense, milieu attaquant.
Voilà, tu fais des catégories.
C'est plus simple. Hein.
Ou alors, si les journalistes et le règlement du Ballon d'Or, ils sont aussi cons pour mettre attaquant, milieu, défenseur et gardien dans le même sac, ils peuvent quand même trancher sur Kroos.
Bon, alors, oui, t'as raison.
Le mettre dans une catégorie qu'ils veulent.
Bon, après, il reste également.
On leur demanderait pas trop, quand même.
Il reste également le principe de l'équipe type de l'année, hein, que ce soit en France ou dans le football mondial. Non, mais en tout cas, c'est un débat intéressant. Je comprends votre fatalisme, messieurs, vous, trois joueurs. Bon, Lionel, évidemment, gardien, mais joueur à vocation défensive, bien sûr. Alors, messieurs, entrons dans le débat. Appelez-nous au 32-16. Lionel, tu commences. Quel est ton attaquant, ton joueur offensif, meilleur joueur offensif de Ligue 1.
Pour une fois, je vais prendre un attaquant. Je vais prendre un attaquant. Alors, je sais que Willy a pris Ibra, donc je vais pas prendre Ibra. Moi, je vais prendre son copain qui l'a remplacé. Je vais prendre Cavani, tout simplement pour. pour ce qu'il est, pour ce qu'il a montré depuis le. Parce que, un, il est dans la liste, déjà. Parce que je me.
Après, vous pouvez vous libérer de la liste, hein.
Voilà. Ouais, bon, enfin, bon, j'ai joué le jeu, il était dans la liste. Et je trouve que, voilà, Cavani, au-delà des statistiques, moi, je vais pas parler de ses stats, il est arrivé, au PSG, il était quand même capocannonier, meilleur buteur en Italie. Et puis, il vient au PSG, on le met sur un côté. Et là, le mec, il dit rien. Ibra est devant, il marque, et l'autre, il fait le taf. Il joue pas à son poste, il dit rien, il fait tout le temps le taf. Malgré tout, il est critiqué, normal, c'est pas son poste. Et le mec, il renaît de ses cendres à chaque fois. On enlève Ibra, on le refoue, on le met numéro 9, il devient meilleur buteur. Il devient meilleur joueur, meilleur buteur de saison, ou 3, je sais plus. Il est meilleur joueur, élu meilleur joueur. Et puis, malgré tout ça, eh ben, encore cette année, tu décides de faire rentrer un autre joueur, Icardi. Tu le mets, tu t'enlèves Cavani et tu lui mets Icardi dans les pattes. Et il dit rien. Et il ronge son frein, il est sur le banc, il rentre, il a la banane. Et puis voilà. Et moi, c'est le genre de joueur que j'adore. Et il n'a pas fait ça une saison, il l'a fait depuis qu'il est au PSG. Avec des hauts, des bas, c'est vrai, il n'a pas été comme hier, je disais, Juninho, qui a survolé, je pense, la décennie. Lui, il ne l'a pas survolé, mais en tout cas, footballistiquement, mais mentalement, je pense que c'est un coéquipier modèle et il est dans les très très bons. Donc pour moi, voilà, Cavani, j'ai voulu en parler ce soir parce que moi, il m'a marqué. C'est un mec avec lequel j'aurais adoré jouer. J'aurais adoré faire deux trois soirées aussi avec lui parce que j'adore ce mec.
T'aimerais parler avec lui, mieux le connaître.
Ah mais ouais, ouais. J'adore un coéquipier comme ça. Voilà, on a fait une fois. Qu'est-ce qu'un coéquipier modèle? Bah, je pense que lui, il doit en faire partie.
Et puis puisqu'on parlait tout à l'heure de entre guillemets l'opposition à attaquant défenseur. Défenseur, lui défenseur aussi, les gars.
J'ai jamais vu un défenseur marquer autant de buts.
Voilà, c'est un peu ça, parce que pour le coup, lui, si on veut un joueur complet, qui met tout le monde d'accord, il fait un travail défensif exceptionnel. Il est parfois plus défenseur qu'un milieu défensif.
En ce qui concerne son comportement, en ce qui concerne sa sympathie, c'est sûr que c'est difficile de trouver mieux.
Et puis, il est meilleur buteur du tous les temps, de
200 buts au PSG,
du PSG, tout ça. Il a marqué plus qu'Ibra, donc et encore, il a plus joué qu'Ibra au PSG. Il a plus joué, bien sûr.
Il a plus joué à gauche et moins dans l'axe.
Et voilà. Et le mec, il a marqué l'histoire du PSG. Je pense qu'un mec comme ça, au PSG, dans l'ère Qatari, bah tu peux. Enfin, moi, j'étais obligé d'en parler.
Il n'a pas fait une saison à moins de 20 buts depuis son arrivée en 2013. Hein, 20, 24, 21, 43, 35, 20.
C'est énorme.
Joueur régulier. Willy.
Alors tiens, ouais, alors pour rompre un peu avec. Parce que parfois on dit que je suis un peu trop austère.
Qui est ça?
Lionel, tu m'as spoilé my life. Là, moi, je voulais annoncer que Ibra, là, tu l'as dit que j'avais dit Ibra, là.
Alors change.
Non, je ne peux pas changer.
Pourquoi, mais moi, je ne comprends pas quand tu dis spoiler, je ne comprends pas. Je ne te comprends plus.
Bah attends, tu m'as spoilé mon truc, là.
Tu dis comment, Willy? Tu dis
spoiler.
Ouais, c'est bien, tu le dis bien.
Bah oui, bah. Non mais Ibra, pourquoi alors? Oui, j'adore Cavani, je suis un fan absolu de Cavani, mais Ibra, c'est parce que je pense que c'est Ibra qui a permis, qui était à l'origine, voilà, il est à l'origine du projet du PSG, enfin du nouveau projet du
projet Qatari. Ouais.
Voilà, c'est lui qui a permis au club de changer de dimension à tous les niveaux, sportif et également en termes de renommée internationale. Et puis moi j'ai toujours une tendresse quand même particulière pour les joueurs je crois que c'était les Guignols qui disaient ça, les joueurs sévèrement burnés, tu vois, les gens sévèrement burnés.
Ben, un tapis.
Et je pense que voilà, et je pense que Ibra c'est un des derniers. Aujourd'hui c'est un peu j'adore regarder le foot d'aujourd'hui parce que c'est vivant, parce que ça va vite, parce qu'il y a de l'intensité, parce qu'il y a moins de vices, il y a plus de jeux. Donc j'adore le foot d'aujourd'hui. Mais le seul petit commentaire négatif que je pourrais amener au foot d'aujourd'hui, c'est il y a plus de gros caractères comme avant. Où on a un peu lissé les caractères parce qu'il faut lisser maintenant pour rentrer dans des cases. Mais voilà, Ibra, son caractère, alors même si parfois il a débordé et que ça m'a embêté aussi parce qu'à un moment donné, il a aussi insulté la France. Mais voilà, ça fait partie du personnage. On peut lui en vouloir pour certaines choses, mais aussi il faut lui reconnaître une chose, c'est que c'était un joueur exceptionnel, avec un caractère, pour moi, c'était un compétiteur hors norme.
Sauf en Ligue des Champions, si tu peux permettre.
Ouais, non, mais compétiteur, quand je dis sa façon d'être aussi au quotidien, c'est tout le temps, il faut qu'il gagne, il faut qu'il travaille pour gagner, il travaille dur. Moi, j'adore ça. Et voilà, donc moi, pour ce qu'il a été, ce qu'il est toujours, mais même s'il est sur la fin, mais pour ce qu'il a été comme joueur par rapport au projet Qatari, pour ce qu'il a fait en Ligue 1, et puis pour les baloches, je mets Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic, 113 buts en Ligue 1 en 4 saisons. C'est énorme. C'est monstrueux. Coach Corbis.
Mais je suis désolé, j'étais pas au courant, mais je choisis Zlatan moi aussi.
Heureusement que je l'ai pas pris.
Évidemment, on a 3h40, on n'était pas bien.
Tout à fait d'accord sur ce que j'ai entendu sur Cavani. Mais Zlatan, ce que je rajoute peut-être, c'est la durée de sa carrière. 38 ans, il va peut-être encore même faire 6 mois, voire une saison. Il est toujours autant passionné. Et c'est vrai que son arrivée dans le projet des Qataris, dans notre championnat pour les droits télé et tout, donc ça a été quand même énorme. Alors après, son comportement... Allez, à cela jouer toujours avec une phrase choc. Ben il a choisi d'être ce personnage-là. Et souvent, il m'a fait sourire. Pas toujours. Des fois, il m'a même gonflé. Mais dans l'ensemble, je le regardais toujours avec beaucoup d'admiration. Donc, voilà pourquoi.
Voilà, Ibra pour Coach Corbis. Tiens, je résiste pas au désir de vous lire ce message envoyé par Christophe sur le Direct Studio. Désolé, messieurs. Le plus dur, c'est de marquer des buts. Les plus talentueux jouent devant et ce sont eux qui font gagner des matchs.
Non. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Il a vraiment. Non, c'est un vrai message.
Le talent, c'est quoi le talent ?
C'est déjà une notion à définir extrêmement complexe.
Exactement, parce que le talent, t'as des gardiens qui sont talentueux, mais eux, ils ont pas le droit de marquer de but, ou en tout cas, ils sont trop loin pour marquer des buts. T'as des défenseurs qui en un contre un sont impassables, qui taclent super bien, qui anticipent super bien. C'est un vrai talent d'anticiper. Voilà. Et après, il y a des joueurs qui sont talentueux pour aller marquer des buts.
Oui.
Bah voilà. Mais ce sont des talents différents.
En tant qu'entraîneur et en tant que joueur, on s'est amusé, entre guillemets. Et Lionel pourra aussi donner son avis. On s'est amusé souvent aux entraînements de voir qu'est-ce qui se passait quand tu avais des défenseurs.
Tu fais jouer les offensifs
contre les attaquants. Mais les attaquants, ils gagnaient jamais.
C'était tout le temps les défenseurs qui gagnaient.
9 fois sur 10. Ouais.
Moi quand tu avais tu faisais ça, tu sais, les petits jeux là, les défensifs comme tu viens de dire, Roland. À chaque fois que les gardiens, vous mettez comme vous voulez. Alors moi, je me mettais tout le temps les gardien défenseurs. Des défenseurs, tout le temps.
Je suis d'accord avec ce que tu nous as lu dans le sens que le plus beau en football, c'est de marquer, c'est pas d'empêcher de marquer, mais d'empêcher de marquer pour une équipe, c'est indispensable aussi. Sinon, les attaquants aussi talentueux qu'ils soient, ils pourraient pas gagner sans avoir avec eux de bons défenseurs et un bon équilibre d'équipe.
Moi, je me souviens,
Nico, si jamais tu mets, essaye de mettre Messi et Ronaldo, tu les mets tous les deux ensemble. Donc deux joueurs face à une équipe complète, 11. Bah tu verras, ils gagneront pas.
Évidemment, bien sûr.
Même s'ils ont le plus grand talent du monde. Parce que de dire, moi je suis désolé après. Alors oui, il faut rêver. Donc ceux qui font rêver, c'est peut-être certains trucs de joueurs, mais un joueur il marque jamais tout seul. Hein. C'est toujours un travail d'équipe. Hein. Un joueur a jamais pris le ballon sur sa ligne de but pour aller marquer sur la ligne de but adverse. Messi a fait 55 mètres avec le ballon, mais il a pas fait 100 mètres.
Roland, oui. Tu remets en cause complètement l'existence des trophées en fait, individuels. On est d'accord.
Parce que ça continue à c'est pour enjoliver les choses, pour rendre le football encore plus beau, encore vendre encore plus de maillots, encore plus de marketing, encore plus de mais c'est pas grave. Que ça soit que des attaquants
du spectacle,
qui fassent rêver des gamins, et tant mieux, parce que le but du jeu, c'est ça aussi, c'est de faire rêver les gamins, et voilà. Donc il y a aucun souci avec ça.
Lionel.
Ouais, je voulais demander à Roland, Roland Willy, est-ce que vous vous souvenez, Nico, de l'image, d'une image, moi, qui m'a marqué, c'était Klopp. Lorsque un de ses milieux de terrain vient tacler à la limite des 16 mètres pour empêcher de prendre un but. Vous vous souvenez pas de cette image? Il y avait la caméra qui était braquée sur lui et là Klopp, son joueur vient, fait un tacle incroyable. Je sais plus quel joueur c'était de Liverpool. Et il fait un tacle incroyable, il vient chercher un truc. Oh, Klopp, il a sauté,
il s'est mis
à genoux et il était les deux bras devant comme ça, comme si c'était un but.
Ça y est maintenant.
Une image de folie. Le mec, il était mais rageux. Il était rageux. Tu sais, il se dit mais putain quel beau geste. Mais ouais, bravo et tout. Comme si c'était un but. Bah voilà. C'est ça fait partie de ça.
Alors les gars, vous savez quoi? Allons-y. C'était pas prévu, mais allons-y. Quel est pour vous le meilleur défenseur de Ligue 1 de la décennie? Lionel. Willy. 2010.
Moi, de la décennie.
Ouais, mais il faudrait que tu me donnes une liste de
2010.
De cette décennie.
Ouais. Marquinhos, tu disais tout à l'heure.
Marquinhos,
ou Thiago Silva, un des deux. Ouais.
Moi, je dirais Marquinhos. Ouais. Parce que Thiago, il a déçu à certains matchs où il aurait pas dû. Marquinhos a toujours répondu présent. C'est un mec à la grinta qui est prépondérant pour son équipe. Pour moi, c'est Marquinhos. Ouais,
moi aussi,
très régulier.
Pour sa régularité pratiquement présent tout le temps.
Voilà, pour Marquinhos. Coéquipier idéal également et joueur idéal pour un entraîneur.
Ah oui.
David Luiz, coach,
mais il marque pas 25 buts par mois.
Le soir qu'on s'occupe de joueurs surfaits, David Luiz, ça m'emmerdera de pas le mettre.
Il est dans le top 5.
T'as vu le CV qu'il a, c'est incroyable. Il y a des joueurs comme ça, qui ont un CV bien supérieur à leur talent, entre guillemets, ou alors leur capacité.
Il faut les féliciter.
Bravo, très fort. Les gardiens, messieurs, je rappelle, bon là vous êtes tous d'accord peut-être, en Ligue 1, Lloris, Malanda, Lloris élu deux fois meilleur gardien de l'année, c'était en 2012 et en 2010, Malanda en 2011, Sirigu deux fois 2013-2014, Malanda 2015-2016, Subasic, Monaco champion 2017, Malanda encore 2018 et Mike Maignan 2019. Coach?
Malanda pour la durée et la longévité.
Lionel?
Malanda. Pour la même chose, c'est voilà encore un mec que je mettrais dans le même sac que Cavani.
Et Willy?
Eh ben Mandanda parce que 10 ans à l'OM, ça peut être 40 ans à Saint-Étienne. Donc bravo, félicitations pour tout.
Bravo Steph, tu nous écoutes.
Bravo Steph.
Pablo est avec nous 32-16. Salut Pablo, supporter de l'OM.
Tout à fait, salut tout le monde.
Bienvenue à la
salle. Salut Pablo, on a bien fait de dire Mandanda.
Bah non, de toute façon, c'était obligé de le reconnaître, Mandanda.
Ouais, il n'y a pas de débat.
Voilà.
Alors toi, tu voulais parler des joueurs.
Ouais, moi en fait, je crois que c'est Coach Courbis qui l'a dit. Celui pour moi qui a marqué la décennie, hein, je vous le dis, j'ai dit au standard aussi, ça m'ennuie vraiment de le dire, c'est Zlatan. Parce que le regard qu'on a eu sur la Ligue 1, en fait, il a changé à partir du moment où
on est deux à l'avoir choisi, sur les trois.
Ah ben voilà, excusez-moi, je ne savais pas qui était l'autre, parce que... C'est qui la deuxième personne qui a...
C'est Willy et Coach. Mais
en premier, c'est Lio qui a choisi Cavani avec des arguments...
Ah oui, qui tiennent largement la route.
Parce que je savais qu'il y avait Willy sur Ibra.
Willy et Coach. Willy et Coach, moi je suis d'accord avec vous dans la mesure où Zlatan, en fait, il a changé le regard qu'on pouvait avoir sur la Ligue 1. En championnat de France, il a simplement martyrisé et marché sur toutes les équipes. On va pas se mentir, Zlatan, ce qu'il a fait avec le PSG parce qu'en même temps, en France, on le regardait, on voyait une star arriver comme si on n'avait jamais eu de grands joueurs en France, en fait. J'ai remarqué ça, c'est que les équipes le regardaient surtout jouer. Mais il a marché sur la Ligue 1, il a fait connaître, c'est lui qui a été l'espèce de phare du projet parisien. Qui a été avant Neymar le mec, le porte-étendard du projet parisien, et à partir du moment où il est arrivé, en fait, le PSG a changé complètement, en fait, a changé d'univers, clairement, parce qu'on était d'une bonne équipe du championnat de France, il pouvait prétendre à quelque chose au niveau européen, et c'est à partir de ce moment-là que la Ligue 1 et le PSG a commencé à briller, en fait, en Europe.
Voilà, vas-y, Pablo, vas-y.
Et en fait, c'est même si voilà, ça m'ennuie de le reconnaître, je vous le dis du fond du cœur, mais en étant objectif, Zlatan, il a battu tous les records en France. Enfin, peut-être, il a juste pas fait tomber celui de Skoblar, ça fait plaisir. Mais en attendant, voilà, il a fait des saisons à plus de 30 buts. Il a porté le PSG, le projet du PSG sur ses épaules pendant des années. Alors certes, après au niveau européen, on pouvait lui reprocher ce qu'on voulait, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ne gagnerait pas la Ligue des Champions tant qu'il y aurait Zlatan. Mais au niveau local, il a tout fracassé en France. Quoi. Il a tout fracassé en France. C'est pour ça que pour moi, c'est le joueur de la décennie. En plus, il a passé 5 ou 6 ans, donc voilà, c'est
4 saisons au PSG, ouais, effectivement.
Voilà. Mmh. Donc, je sais pas si vous trouvez après quelque chose à dire, évidemment. Je suis d'accord avec Lionel sur Cavani. Hein. Sur Cavani, il n'y a pas de problème. Cavani, gros attaquant aussi, mais il n'a pas l'influence qu'a pu avoir Zlatan pour le PSG.
Je crois qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Ouais, on connaît pas le personnage, il a marché sur la Ligue 1. Hein. Merci Pablo, excellente soirée à toi.
Ciao Pablo.
Bah, de rien.
Salut Pablo.
Excellente soirée Pablo, à bientôt dans l'after. Eric est avec nous, supporter du Stade Rennais. Salut Eric.
Salut à tous.
Bienvenue dans la
salle. Salut Eric.
Ouais, plaisir de vous avoir.
Alors, parole.
Le confinement, là, ça permet un peu de sortir.
Ben, pareillement.
Merci à vous.
Nous aussi. Alors, parole dissonante, Eric.
Alors, répète, j'ai juste pas entendu la question, excuse-moi.
T'es pas d'accord avec nous. En tout cas, t'as un avis différent.
Bah, un avis différent, oui, parce que vos critères veulent tout dire et rien dire. Aujourd'hui, bon, on joue à Paris. Tu peux être un joueur moyen et devenir un très bon joueur au niveau des stats. Donc j'entends Ibra et Cavani. Sauf qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, en les mettant dans d'autres équipes, est-ce qu'aujourd'hui, vous leur donnez ces stats-là? Moi, je dirais non. Je parierais plus sur des joueurs comme Eden Hazard, qui était à Lille, ou Kamavinga, qui sont à Rennes, des gamins qui ont 16-17 ans et aujourd'hui qui ont le monopole du jeu. Donc,
ton choix, c'est Eden Hazard, toi.
Ouais, Eden Hazard, et je terminerai par Kamavinga.
Ouais, bon, pour l'instant,
Kamavinga, il n'y a que
Kamavinga. 40 matchs en Ligue 1.
Il faut qu'il ait marqué la décennie. Hein,
On en a parlé hier soir. Kamavinga, il va certainement y arriver. Dieu sait qu'on a fait des éloges sur lui hier soir. Mais là, dans le débat de ce soir, ça n'a rien à voir.
Non, mais Eden Hazard en revanche, ouais. C'est ton choix.
Eden Hazard 2017-2012 à Lille.
Donc, c'est-à-dire que Eden Hazard, par rapport à un Zlatan qui fait sa carrière jusqu'à 38 ans, Eden Hazard qui est un talentueux qui se permet d'arriver au Real Madrid avec 7 à 8 kilos de trop pour un transfert de 100 millions machin, lui c'est celui qui dans ta réflexion est au-dessus de Zlatan.
Eric, est-ce qu'il est encore là, Eric?
Ouais, je suis là, sauf qu'aujourd'hui, les critères que j'entends ne veulent rien dire. On parle après du futur qu'ils ont pris après cette décennie. Zlatan, peu importe l'âge qu'il a, je vous le redis encore, vous le mettez à Monaco, à Lille ou à Strasbourg, ses stats, il ne les a pas. Il faut juste être franc.
Mais si, par exemple, Zlatan, on le met numéro 9 à la place du, si je ne me rappelle plus, c'était d'ailleurs le meilleur buteur, dans l'équipe de Lille qui fait le doublé et qu'il y a Hazard, je pense que Zlatan peut mettre le même nombre de buts qu'à Paris.
Mais Moussa Sow qui avait fini meilleur buteur.
Non. Paris, c'est beaucoup plus équilibré sur toutes les lignes, donc c'est ce qui le permet de briller.
Dans ce Lille-là, champion de France, je pense que
l'équipe de Lille, champion de France,
c'est difficile. Avec
les milieux.
Après, c'est dur.
Même l'équipe de Lille, championne de France, ne vaut pas l'équipe de Paris.
À l'époque,
si on se rappelle, si t'avais mis Ibrahimovic avant-centre, t'avais Gervinho à droite, t'avais Hazard à gauche. Tu avais Cabaye, Mavouba, Balmont derrière pour Debuchy sur les côtés pour aller centrer.
T'avais une équipe de dingue.
Tu peux peut-être pas la comparer avec le PSG qui s'est construit après avec beaucoup d'argent sur la table, mais je pense que dans cette équipe là, Ibra il aurait mis aussi un paquet.
Évidemment. Merci Eric.
Avec grand plaisir, en
pareil,
tout cas.
Merci,
continuez votre émission, ça permet de changer la tête et un grand super pouce à l'équipe médicale en France.
Merci Eric, évidemment.
Okay, super.
Salut.
On relaie le message. Merci, ciao, excellente soirée. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Messieurs, on est ensemble jusqu'à minuit. Le dernier quart d'heure est à venir. On va évoquer les joueurs. Alors, si coach a évoqué un joueur surcoté selon lui, en l'occurrence David Luiz. Nous allons évoquer les joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1. C'est plus positif comme débat. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Avec Lionel Charbonnier, Willy Sagnol et Coach Courbis. On est ensemble encore pendant une grosse dizaine de minutes pour notre dernier thème de ce samedi soir, messieurs, les joueurs les plus sous-cotés. Tiens, d'abord, rapide quiz parce que, sujet à part, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un joueur français. À vous de le trouver, messieurs. Qui a 27 ans aujourd'hui, en ce 25 avril 2020. Il est international français. Champion du monde.
Pogba ?
Non, il a la même trajectoire de vie que Frédéric Hermel. Frédéric Gustave Hermel.
C'est un 93, donc.
93.
Génération latéral. 93.
Il fête ses 27 ans aujourd'hui.
Un latéral ?
Je peux pas en dire plus, je vais les trouver.
Umtiti. Umtiti.
Non. Non.
Kanté ?
Non.
Non.
Parce que les 93, c'est Umtiti, Pogba.
C'est un latéral. Ah, t'es pas mal, t'es attention. Et un des importants, il a la même trajectoire de vie que Frédéric Hermel.
Varane.
Eh oui, lance Real Madrid. Raphaël Varane a 27 ans aujourd'hui, déjà. Et ce monsieur est champion du monde, il a 4 Ligues des Champions, déjà. Voilà. Bravo à lui, anniversaire de Raphaël Varane, mais aussi, messieurs, l'anniversaire d'un illustre du championnat de France de Ligue 1, Cheick Diabaté, sans transition, qui a 32 ans aujourd'hui. Passage en France immortalisé par Julien Cazard en chanson. Écoutez.
Hey, où t'es Cheick Diabaté? Où t'es Cheick Diabaté? Où t'es Cheick Diabaté? Où t'es Cheick Diabaté? Qui t'es Cheick Diabaté? Qui t'es Cheick Diabaté? Qui t'es Cheick Diabaté?
Voilà, bien anniversaire Cheick Diabaté, qui a marqué beaucoup de buts en France quand même. J'en parle parce que alors, c'est parce que c'est l'anniversaire qu'on évoque ce thème du joueur sur le côté.
Et surtout très sympa parce que bon, je l'avais vu dans une émission justement. Où,
ah, j'ai plus un.
Où, adorable, il est adorable. Ah,
sincèrement, c'était difficile d'être aussi sympa.
Il a connu Willy.
Ah bah oui, mais là, c'est un échec, c'est
très gentil.
C'est un mec. Bah tu peux pas ne pas l'aimer, c'est impossible. C'est impossible. C'est parfois, il est. Parfois, il va te frustrer parce qu'il a son raisonnement à lui et qu'il est très têtu. Cheick, c'est quelqu'un de très têtu, mais par contre d'une gentillesse, t'aimerais que tous les joueurs de foot aient la même gentillesse entre guillemets parce qu'il a rien de méchant lui.
Un vrai gentil. Diabaté, que tu as connu donc au Girondins de Bordeaux, évidemment,
oui.
Qui a évolué quand même. Pas mal d'années à Bordeaux. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saisons, 7 saisons au Girondins.
Ah, quand même.
Qui a marqué 2 fois 12 buts en Ligue 1 avec Bordeaux, 1 fois 11 buts notamment.
C'était son problème, c'est qu'il faisait que des demi-saisons parce qu'il était souvent blessé. Et il faisait que des demi-saisons. Mais quand tu regardes le fait qu'il fasse que des demi-saisons.
C'était un genou qui l'a emmerdé. Ouais.
Alors, c'est pour ça que je voulais faire ce thème. Moi, je considère que c'est un joueur sous-coté. Mais tu as raison, Willy, c'est important. Il a été souvent blessé. Donc, c'est aussi une autre catégorie de joueurs, peut-être, qu'il n'a pas eu de chance dans sa carrière. Mais partout où il est passé, il a réussi à se montrer efficace. Même quand il a rejoint Metz en 2016-2017, où il met 8 buts en 14 matchs, quand même, ce joueur, qui était moqué pour ses qualités techniques, notamment. Et voilà, il avait l'air un peu emprunté parfois. Mais c'est un joueur qui a été efficace. Je me tourne vers toi, Willy. On commence avec toi. Est-ce que tu as l'idée d'un joueur sous-coté dans l'histoire du foot?
Alors, malheureusement, j'en ai deux et j'arrive pas à me décider. Les deux, c'est Jérémy Morel et Pagis.
Ah, Pagis, la classe.
Ouais.
Alors, pourquoi? Ouais.
Alors, Morel, parce que il a souvent été critiqué, mais Morel, il a toujours été là, il est encore là, et
quel poste?
Dans l'axe, à gauche, de partout. De toute façon, je dis pas qu'il pouvait jouer de partout, mais il était ailier gauche à Lorient, après il a reculé un peu, j'adore cette mentalité du mec, voilà, qui se pose jamais de questions, il travaille dur et il a raté des matchs, mais tout le monde a raté des matchs, même les grands, très grands joueurs ont raté aussi beaucoup de matchs, mais pour sa longévité, pour, moi, je trouve qu'il a été sous-coté dans sa carrière. Il était sous-coté, ouais.
C'est incroyable,
je pense qu'il aurait mérité un peu plus d'estime par rapport à ce qu'il réalisait.
Et c'est exactement le choix de Steve Malanda qui, il y a quelques jours, a répondu à cette question. Il a dit, pour moi, c'est Jérémy Morel, joueur hyper fiable, régulier, un soldat, un super gars qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Voilà pour Jérémy Morel. Et ce que nous dit également Bilal, avant qu'il nous dise, joueur qui a toujours mouillé le maillot. Oui.
Et puis Michael Pagis parce que c'était l'élégance, parce que il avait un petit bout de canto en lui. Et je sais pas pourquoi il a pas pu aller plus haut. J'ai pas la réponse. Bon, maintenant c'est trop tard, je l'aurais plus. Mais enfin moi, il était beau à voir jouer. C'était un joueur c'est élégant.
Il avait le port de tête très haut, tu sais, la classe, ouais. Quoi.
Ça a fait un sacré duo avec Niang.
Ouais. Et j'ai toujours pensé qu'il allait à un moment donné peut-être arriver à toucher un peu l'équipe de France, mais malheureusement non.
Lionel.
Eh ben moi je vais te parler d'un joueur qui était magnifique, qui est issu de la formation de la JOCR, ouais. Que pratiquement personne ne connaît, je suis sûr, et pourtant il a été prépondérant dans tous les clubs où il est passé. C'est Daniel Dutuel.
Ah oui.
Un milieu de terrain, ouais. Qui était magnifique, franchement, un coéquipier modèle, un mec. Moi je me souviens. En 93, on joue contre l'Ajax. C'est lui qui marque. Il savait marquer. Il marquait pas énormément, mais quand il marquait, c'était toujours des buts décisifs. C'est lui qui élimine. Enfin, avec son but, on élimine l'Ajax. On va en demi-finale contre Dortmund. C'est un mec qui n'a jamais été en équipe de France. Il a toujours été pris en équipe de France à prime. Donc suite à ça, il s'en va de la JOCR. Il signe à Marseille. Pas de chance, encore une fois, Marseille, champion d'Europe.
94.
Ouais, exactement. Et donc, il arrive dans la grande équipe de Marseille, grand joueur. Je me suis dit, ça y est, il va. Et puis, il y a l'affaire VAOM. Et donc, ils sont relégués. Marseille est relégué en Ligue 2.
Ah donc, ouais, si par exemple, un soir, on traite des mascottes, on va pas mettre lui. Hein.
Il part de Marseille et il va à Bordeaux. À Bordeaux, il a fait encore des saisons extraordinaires.
Finale de Coupe de l'UEFA.
Exactement. Il est là, il est au milieu de terrain. Il a été prépondérant en finale. Il fait demi-finale de Coupe d'Europe avec Auxerre, finale avec Bordeaux. Le mec, il est partout, issu de tout. Alors, on a entendu parler de Cantona, Boli, Vairua, Prunier, Martins, Coquard, Charbonnier, et puis lui, jamais. Jamais. Et franchement, c'est un mec. Il était beau, quand je dis c'est un beau joueur, élégant, efficace. Voilà, donc je voulais moi le mettre un petit peu en lumière parce que je comprends pas qu'il ait pas été comme ça. Déjà, au moins une sélection en équipe de France, je ne comprends pas. Mais bon, voilà.
11 ans à la JOCR pour lui, formé au club, bien sûr, parti en 93.
Et après, il s'est perdu. Alors, tu sais, une petite anecdote, en plus, il marque avec Bordeaux. Alors, je me souviens de ce but, c'était en Coupe de France. Il marque un but, il frappe le long du poteau. Là, les Bordelais vont s'en souvenir, tu dois t'en souvenir.
Je sais pas.
Il frappe, mais si, le long du poteau, la balle, elle longe et elle rentre dans le but. Et le but est accordé. Alors que le ballon était passé en dehors. Donc arrêt de jeu, moi tu te souviens pas de cette anecdote? Ah ouais, arrêt de jeu et tout, les joueurs de Mont-de-Marsan disent il y a pas but, la balle est passée à côté, les juges de touche vont chercher le trou dans le filet.
Ah oui, ça me parle.
Il y a jamais ils ont jamais trouvé le trou
par lequel a été validé.
Le but a été validé alors qu'elle est passée à côté. Il a tapé à l'extérieur. Elle a frôlé le poteau extérieur. Elle a longé. Elle est rentrée par un petit trou que personne n'a trouvé ensuite.
C'était son sort de chance, là, Marcel.
Et voilà, une anecdote pour lui. Bon, ben voilà, le but a été validé, mais c'était son jour de gloire, le pauvre. Mais Daniel, c'était un mec extraordinaire. Je pensais que t'allais t'en souvenir.
Je le rappelle. Que là. Moi, je me souviens de son but en finale de la Coupe de l'UEFA, quand même. Il a marqué. Bordeaux a été battu par le Bayern Munich sur la phase aller-retour, mais c'est lui qui avait marqué le seul but des Girondins
exact.
En finale.
Exact.
Coach.
Ben, j'ai pensé à 2-3 joueurs, donc Gravelaine, puis après j'ai pensé à Julien Ferré, qui sont des joueurs que chaque fois que je voyais jouer, ben, je les trouvais très bons, et puis qui ont fait de bonnes carrières. Ferré notamment, qui a joué très longtemps, jusqu'à même 37-38 ans. Mais finalement, après avoir viré ton nez, je choisis un joueur qui a fait une belle carrière, mais qui aurait pu pour moi, ou qui aurait dû être encore plus belle, c'est Yohann Micou, que j'ai eu le plaisir de connaître, puisque quand j'arrive à Bordeaux et que c'est la saison où Dugarry, Zizou, Lisa, enfin je vais pas tous les citer, partent et qu'il faut reconstruire une équipe, je prends justement Micou à Cannes pour le mettre comme remplacement, pas remplaçant, puisque Zizou n'est plus là, comme remplacement de Zizou. Et finalement, je sais pas si c'est ça, ou bizarrement, après, il a été au Werder de Bruyne, qui était un bon club, mais c'était pas non plus le Bayern comme Willy. Il va à Parme, que c'était une grosse équipe, mais c'était pas Milan, ni la Juve. Et voir Micou avec seulement 17 sélections, j'ai l'impression que l'ombre de Zizou lui a porté tort et qu'il fait une carrière en dessous de ce qu'il aurait pour moi mérité.
C'est ça l'histoire parfois aussi, hein. T'es barré par un meilleur joueur que toi. Ça arrive.
Mais vous savez, moi je vais rebondir sur ce que dit Roland. Il est barré, oui, par Zizou. J'ai fait mon premier match que j'ai fait en équipe de France. Pour la première fois, j'ai été sélectionné. Je suis rentré, je crois, une quinzaine de minutes, j'en sais rien. C'était en Turquie et on avait été gagné en Turquie 4-0. Et c'est un match où Zidane et Micou avaient été alignés ensemble.
La preuve qu'ils pouvaient.
Ils avaient fait les deux un récital. C'était un récital.
Évidemment, ça avait trop bien marché. On n'a pas renouvelé, quoi.
Voilà, et je sais pas pourquoi.
C'était en quelle année ça?
Ça devait être en septembre ou octobre 2000. Donc c'était juste après le championnat d'Europe.
D'accord.
Ah ouais, mais écoute, hein.
Après, il est là à la Coupe du Monde. Il est là à la Coupe du Monde 2002, mais il joue très peu.
Il gagne l'Euro, voilà. Hein. Il est dans le groupe de l'Euro. Non, je me trompe peut-être, Micou.
Je sais plus.
Si, il est champion d'Europe, Micou.
Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est vrai que, enfin, moi, je
l'ai. C'était élégant aussi.
Pendant quatre ans à Brême, il a été extraordinaire à Brême.
Ouais, extraordinaire.
Lui, on aurait d'ailleurs avec un autre dans l'équipe de Brême qu'on aurait pu mettre aussi, c'était Valérien Ismaël,
qui a fait seulement 17 sélections, Micou.
Ouais.
Voilà, messieurs,
une super carrière.
On nous cite sur Direct Studio, notamment Savanier. On va voir, il a encore une carrière devant lui, même s'il est déjà âgé. Savanier, sous côté, Sébastien Roudet également. Ouais, les noms qui sortent. Merci, messieurs, c'était un plaisir comme tous les week-ends.
Salut, Lionel,
excellente soirée à vous.
À demain, bon dimanche à tous.
Bien sûr, continue avec Gilbert Brivois, bien sûr, et Daniel Riolo. Bye bye.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.